Je règne par la force du regard et des serres, tel le faucon parmi les oiseaux inférieurs. Proclamation Atréide. Référence Archives du Bene Gesserit. À l'aube, Teg émergea de l'abri des parvents qui bordaient la grande route. C'était une voie plate et très large, à la chaussée renforcée et exempte de vie végétale. 10 véhicules au moins pouvaient y rouler de front, estima Teg. À cette heure-ci, elle était surtout empruntée par des piétons. Il avait soigneusement épousté ses vêtements et s'était assuré qu'il ne portait aucune marque distinctive. Ses cheveux gris n'étaient pas aussi soignés que d'habitude, mais il n'avait que ses doigts pour tout peigne. La circulation sur la route se faisait en direction d'Issaï, à plusieurs kilomètres de là, de l'autre côté de la vallée. La matinée était sans nuages, et une faible brise soufflait sur son visage, en direction de la mer située quelque part au loin derrière lui. Au cours de la nuit, il avait atteint une sorte de compromis délicat avec ses nouvelles perceptions. Les informations floues affluaient dans sa vision seconde. Connaissance d'événements autour de lui avant même qu'ils se produisent, sensation de savoir exactement où il fallait poser le pied pour accomplir le prochain pas. Et derrière tout cela, la réaction qui pouvait se déclencher à n'importe quel moment pour lui donner une rapidité de mouvement qui normalement était incompatible avec une créature de chair et d'os. La raison était incapable d'expliquer la chose. Il avait l'impression de marcher en équilibre sur le fil d'un rasoir. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait trouver d'explication à ce qui lui était arrivé quand il avait été soumis à la sonde T. Était-ce une expérience analogue à celle des révérendes mères lors de l'agonie de l'épice? Mais il ne sentait pas la présence d'une mémoire seconde issue de son passé ancestral. Et il ne croyait pas les sœurs capables de faire ce qu'il faisait. Sa double vision qui lui disait à l'avance d'où allait venir le prochain mouvement dans la limite de ses perceptions immédiates, ressemblait à une nouvelle forme de connaissance de la réalité. Ses professeurs Mentat lui avaient toujours assuré qu'il existait une forme de vérité vivante que le recours aux faits ordinaires ne suffisait pas à prouver. Elle était parfois contenue, disait-il, dans une fable ou une poésie, et allait souvent à l'encontre des désirs conscients. « C'est l'expérience la plus difficile à admettre pour un Mentat, » ajoutait-il. Teg avait toujours réservé son jugement sur cette affirmation. Il était cependant obligé aujourd'hui de l'accepter. La sonde T lui avait fait franchir le seuil d'une nouvelle réalité. Il ignorait pourquoi il avait choisi ce moment précis pour émerger de sa cachette, mis à part le fait qu'il s'insérait ainsi dans un flot humain plausible. La plus grande partie de la circulation sur cette route était constituée par des maraîchers qui tiraient des panières de fruits et de légumes. Ces panières étaient soutenues par des suspenseurs de type rudimentaire. La vue de toute cette nourriture provoquait chez Teg de douloureux élancements d'estomac, mais il se forçait à les ignorer. Avec son expérience des planètes primitives que lui avait fait acquérir une longue carrière au service du Bene Gesserit, il assimilait l'activité de ces maraîchers à celle d'un paysan tirant par son licol une bête de somme. La densité de la circulation à pied le frappait, comme un mélange étrange d'archaïsme et de modernisme. Spectacle banal de campagnards portant leurs produits à la ville grâce à des dispositifs techniques tout à fait ordinaires. Mais les suspenseurs mis à part, cette scène évoquait pour lui le passé le plus reculé de l'humanité. Après tout, une bête de somme était une bête de somme, même si elle sortait de la chaîne de montagne d'une usine ixienne. Faisant appel à sa vision seconde toute neuve, Teg choisit l'un de ses campagnards, un homme trapu à la peau foncée, aux traits épais et aux grosses mains calleuses. Il marchait d'un air décidé et indépendant, en remorquant 8 énormes panières chargées de melons à l'écorce rugueuse, dont le parfum était un supplice pour l'estomac affamé de Teg. Celui-ci régla son pas sur celui du paysan et attendit quelques minutes avant de lui demander « Est-ce la meilleure route pour se rendre à Issaï ?»«
Issaï est très loin !»
lui répondit l'homme d'une voix gutturale aux intonations prudentes. Teg regarda les panières derrière lui.
« Nous les portons à un marché de gros, »
poursuivit le paysan avec un regard oblique.
« D'autres s'occupent de les acheminer en ville. »
Teg s'était aperçu que tout en parlant, l'homme l'avait guidé, poussé presque, vers le bord de la chaussée. Puis il avait regardé derrière lui en tournant la tête et en l'inclinant légèrement. Trois autres paysans les avaient rattrapés et les entouraient maintenant de telle sorte qu'ils étaient totalement coupés par un mur de panières du reste de la circulation. Teg ne savait quelle attitude adopter, que cherchait-il à faire. Pour sa part, il ne sentait aucune menace. Sa vision spéciale n'avait décelé aucune violence imminente dans son entourage. Un véhicule lourd les dépassa à toute allure, lancé dans la direction d'Issaï. Teg ne perçut son passage qu'à l'odeur de ses gaz d'échappement, au déplacement d'air qui secoua les panières, au bruit de son puissant moteur et à la tension soudaine de ceux qui l'entouraient. Le mur de panières lui cachait complètement la vue.
« Nous vous cherchions pour vous protéger, Bachar, »
lui dit le paysan à qui il avait adressé la parole en premier.
« Il y en a beaucoup qui vous traquent, mais aucun d'eux ne se trouve ici parmi nous. »
Teg lui avait jeté un regard stupéfait.
« Nous avons servi sous vos ordres, Arène d'Itaï, » ajouta l'homme.
Teg déglutit.
« Reine d'Itaï. »
Il lui fallut quelques instants pour se rappeler. Rien qu'une escarmouche sans importance, au milieu d'une interminable série de conflits et de négociations.
« Je regrette, mais je ne sais pas comment vous vous appelez, » dit-il.
« Soyez heureux de ne pas connaître nos noms. Cela vaut bien mieux. »
« Mais je vous suis reconnaissant. »
« C'est nous qui sommes contents de cette occasion de rembourser une partie de notre dette, Bachar. Je dois me rendre à Issaï. C'est dangereux.
Le danger est partout.
Nous nous doutions que vous voudriez aller à Issaï. Quelqu'un va bientôt passer sur cette route. Il vous cachera. Justement, le voilà. Personne ne vous a vu, Bachar. Vous n'étiez pas ici. »
Un autre paysan remorqua, en plus de ses propres panières, le chargement du premier, tandis que celui-ci aidait Teg à passer sous une longe pour monter à l'intérieur d'un véhicule obscur. Il eut une brève vision de plastacier luisant et de place au moment où le véhicule ralentit un peu pour permettre l'opération. La portière se referma vivement derrière lui et il se retrouva sur la banquette confortable et capitonnée d'un véhicule de sol, seul à l'arrière. La voiture prit de la vitesse, laissant derrière elle le groupe de paysans à pied. Les vitres intérieures étaient fumées, ne laissant voir à Teg qu'un paysage obscur qui défilait. Le chauffeur était une silhouette entourée d'ombre. Cette première occasion, depuis sa capture, de se détendre confortablement, incita presque Teg à se laisser sombrer dans le sommeil. Il ne percevait aucune menace. Son corps demeurait tout endolori du traitement que lui avait infligé la sonde T et des efforts surhumains qu'il lui avait demandés par la suite. Il se disait toutefois qu'il fallait qu'il reste alerte et prêt à tout. Le chauffeur se pencha de côté et parla sans se retourner par-dessus son épaule. « Il y a 2 jours qu'il vous cherche, Bachar. Certains sont sûrs que vous avez quitté la planète. »
« 2 jours ?»
L'étourdisseur ou les autres traitements qu'ils avaient pu lui faire subir l'avaient laissé inconscient pendant trop longtemps. Cela n'avait fait qu'accroître sa faim. Il essaya de lire par l'intermédiaire de ses centres visuels le chrono implanté dans sa chair, mais il clignota à vide, comme il l'avait fait chaque fois que Teg l'avait consulté depuis la sonde T. Sa notion du temps et toutes ses références dans ce domaine étaient profondément altérées.
« Ainsi, il y en a qui pensent que j'ai quitté Gameux. »
Teg ne demanda pas qui étaient ceux qui le cherchaient. Detleilaxu et des gens de la dispersion avaient participé à l'attaque et aux tortures qui avaient suivi. Teg examina la voiture où il se trouvait. C'était l'un de ces splendides véhicules de sol datant d'avant la dispersion. Il portait les marques de la plus belle fabrication ixienne. Bien que ce fût la première fois qu'il en essayait un, il en avait déjà entendu parler. Des artisans les récupéraient pour les remettre à neuf, refaire la décoration intérieure et tout ce qu'il fallait pour leur redonner cette ancienne touche de qualité et de luxe. On avait dit à Teg qu'on en découvrait encore dans des endroits insolites. Vieux immeubles abandonnés, conduits de voirie, entrepôts de machines ou même au beau milieu d'un champ. De nouveau, le chauffeur se pencha pour parler par-dessus son épaule. « Vous avez une adresse où vous voulez aller à Issaï, Bachar ?» Teg fouilla sa mémoire, à la recherche des contacts dont il avait dressé la liste à l'occasion de sa première tournée sur Gameux, et il lui donna une adresse.
« Vous connaissez cet endroit ? »
C'est un établissement où les gens se rencontrent surtout pour boire et pour parler, Bachar. J'ai entendu dire qu'on y sert aussi une excellente nourriture. N'importe qui peut y entrer à condition d'avoir de l'argent. Sans savoir ce qui l'avait poussé à faire ce choix, Teg déclara « Nous y tenterons notre chance ». Il ne jugeait pas nécessaire d'expliquer au chauffeur qu'il y avait aussi des salons particuliers à cette adresse. L'idée de la nourriture lui donnait de nouvelles crampes à l'estomac. Ses bras se mirent à trembler et il lui fallut plusieurs minutes pour recouvrer son calme. Les activités de la nuit dernière l'avaient littéralement vidé de ses forces. Il explora du regard l'intérieur de la voiture dans l'idée qu'il y trouverait peut-être de quoi boire ou de quoi manger. La rénovation avait été effectuée avec amour, mais il ne trouva pas de compartiment secret contenant ce qu'il désirait. Ces voitures n'étaient pas tellement rares dans certains quartiers, mais il fallait être riche pour en posséder une. À qui appartenait celle-ci? Pas à celui qui la conduisait en ce moment, en tout cas. Il ressemblait trop à un chauffeur professionnel. Mais si cette voiture lui avait été envoyée exprès, cela signifiait que d'autres savaient où il se trouvait.
« Allons-nous être arrêtés et contrôlés ?» demanda-t-il.
« Pas avec cette voiture, Bachar. Elle appartient à la banque planétaire de Gameux. » Teg absorba ce renseignement en silence. La banque planétaire faisait partie de ses contacts. Il avait étudié soigneusement l'emplacement de ses principales succursales au cours de sa tournée d'inspection. À cette évocation, il pensa brusquement aux responsabilités qu'il avait envers le Gola.
« Mes compagnons, » fit-il en hésitant. Sont-ils...
D'autres sont en train de s'en occuper, Bachar. Je ne peux rien vous dire de plus.
Pourrait-on prévenir le...
Dès qu'il n'y aura plus de danger, Bachar.
Naturellement.
Il se renfonça au creux de la banquette et se remit à étudier l'intérieur de la voiture. Ces véhicules de sol étaient essentiellement construits en place et en plastacier virtuellement indestructibles. C'étaient les autres matériaux qui se dégradaient avec le temps. Les garnitures, les enjoliveurs, l'électronique, le système de suspension, les revêtements de protection thermique des conduits de turbopropulsion. Toutes les substances adhésives finissaient par se détériorer quoi qu'on fasse. Les rénovateurs avaient fait en sorte que ce véhicule semble sortir tout droit de l'usine. Le métal avait un éclat austère, les coussins se moulaient sur lui avec ce léger crissement du neuf. Quant à l'odeur, c'était ce mélange indéfinissable de matériaux nobles et d'encaustiques, avec une petite pointe d'ozone venue de l'électronique au fonctionnement impeccable. Mais nulle part dans tout cela, il n'y avait la moindre odeur de nourriture.
« Combien de temps pour atteindre Issaï ?» demanda Teg.
« Une demi-heure environ, Bachar. Avez-vous une raison d'aller plus vite ? Je ne voudrais pas trop attirer... »«
J'ai très faim. »
Le chauffeur jeta un coup d'œil à droite puis à gauche. Il n'y avait plus aucun paysan en vue. La route était déserte, à part deux lourdes cosses de transport avec leurs tracteurs qui se tenaient sur la voie de droite et un énorme camion qui transportait une haute machine de cueillette des fruits automatiques. « Il serait dangereux de trop s'attarder, » dit le chauffeur. « Mais je connais un endroit où je pourrais, je pense, vous obtenir au moins une assiette de soupe. »«
N'importe quoi. Il y a deux jours que je n'ai pas mangé et je me suis beaucoup dépensé. »
Ils arrivèrent bientôt à un carrefour où ils s'engagèrent dans un étroit chemin sur la gauche, parmi de hauts conifères régulièrement espacés. Ils prirent une allée qui passait au milieu des arbres pour aboutir à une construction basse en pierre noire surmontée d'une toiture de place noire. Les fenêtres étroites laissaient apercevoir l'éclat miroitant de leur brûleur de protection. « Juste une seconde, » dit le chauffeur. Quand il descendit, Teg aperçut son visage pour la première fois, tout en longueur, avec un nez effilé et une bouche très fine. Ses joues portaient les stigmates visibles en forme d'arabesque, d'un travail de reconstitution chirurgicale. Ses yeux brillaient d'un éclat argenté visiblement artificiel. Il lui tourna le dos pour entrer dans le bâtiment. Quand il en ressortit, il vint ouvrir la portière de Teg. « Faites vite, Bachar, on est en train de vous réchauffer un peu de soupe à l'intérieur. » Je leur ai dit que vous étiez un banquier, inutile de les payer. Le sol était couvert de glace craquant sous ses pieds. Teg dut se baisser légèrement pour franchir le seuil. Il pénétra dans un couloir sombre, lambrissé, au bout duquel il y avait une salle bien éclairée. L'odeur de nourriture qui en provenait l'attirait comme un aimant. Ses bras s'étaient remis à trembler, Une petite table avait été dressée près d'une fenêtre qui donnait sur un jardin clos et couvert. Des massifs chargés de grosses fleurs rouges dissimulaient presque entièrement le mur de pierre qui délimitait le jardin. Les baies de cerplace jaune baignaient l'endroit d'une lumière d'été artificielle. Teg se laissa tomber avec gratitude dans l'unique fauteuil qui se trouvait devant la table. Il remarqua la nappe blanche aux liserés gaufrés. Il y avait une seule cuillère à soupe. Une porte grinça sur sa droite et une silhouette trapue apparut, portant un bol fumant. L'homme eut un instant d'hésitation en voyant Teg, puis déposa le bol devant lui sur la table. Quelque peu alarmé par sa réaction, Teg se força à ignorer momentanément l'arôme alléchant qui montait jusqu'à ses narines et se concentra sur celui qui le servait en disant « C'est une excellente soupe, monsieur. Je l'ai préparée moi-même. » La voix aussi était artificielle. Il vit les cicatrices de chaque côté de la mâchoire. Cet homme ressemblait à une ancienne créature mécanique. Sa tête, presque sans cou, était rattachée à de larges épaules. Ses bras semblaient bizarrement articulés aux épaules et aux coudes. Ses jambes donnaient l'impression de ne plier qu'aux hanches. Il se tenait à présent immobile, mais il était entré d'une démarche raide qui confirmait qu'il était surtout fait de prothèses. La souffrance qui se lisait dans ses yeux ne pouvait demeurer inaperçue.
« Je sais que je ne suis pas très beau à voir, » fit-il d'une voix grinçante. « J'ai été massacré dans l'explosion d'Alajori. »
Teg n'avait pas la moindre idée de ce qu'était cette explosion d'Alajori, mais son interlocuteur présumait visiblement qu'il était au courant. Ce terme « massacré » était au demeurant une accusation fort intéressante portée contre la destinée.
« J'étais en train de me demander si je vous connaissais déjà. » lui dit Teg. Ici, personne ne connaît personne. Mangez votre soupe. Vous n'avez rien à craindre dans cette maison.
Il leva le doigt en direction de l'extrémité spiralée d'un détecteur silencieux qui pendait du plafond et dont la couleur indiquait qu'il n'y avait pas de poison dans son entourage immédiat. Teg regarda le liquide brun foncé qui emplissait son bol. Il contenait plusieurs morceaux de viande. Il saisit sa cuillère d'une main tremblante et fit deux tentatives infructueuses avant de pouvoir la porter à sa bouche, non sans en avoir refait tomber presque tout le contenu dans le bol. Une main ferme agrippa son poignet pour l'aider, et la voix artificielle parla doucement à son oreille.
« Je ne sais pas ce que ces salauds vous ont fait, Bachar, mais je peux vous assurer que personne ne vous fera de mal ici sans m'être préalablement passé sur le corps. Vous me connaissez ? Beaucoup sont prêts à mourir pour vous, Bachar. Si mon fils est vivant aujourd'hui, c'est à vous qu'il le doit. »
Teg le laissait guider sa main. Il n'aurait pas pu autrement avaler la première cuillerée. Le liquide était riche, brûlant et bienfaisant. Sa main cessa bientôt de trembler et il fit signe à l'homme de lui lâcher le poignet.
Encore un peu, Bachar.
Teg s'aperçut alors qu'il avait vidé le bol. Il était tenté de dire oui, mais le chauffeur lui avait demandé de se dépêcher.
Merci, mais il faut que je reparte. « Vous n'étiez pas ici, » lui dit l'homme.
Quand il fut de nouveau confortablement installé à l'arrière du véhicule lancé à toute allure sur la grande route, Teg réfléchit à la formule d'adieu utilisée par celui qui se disait « massacré ». C'était la même que celle du premier paysan. « Vous n'étiez pas ici. » Cela en disait long sur l'état d'esprit collectif qui régnait sur Gameux et sur les changements survenus depuis sa tournée d'inspection. Ils arrivèrent dans les premiers faubourgs d'Issaï, et Teg se demanda s'il ne valait pas mieux qu'il se déguise d'une manière quelconque. Trop de gens semblaient le reconnaître du premier coup.
« Où me cherchent les honorés matriarches à présent ? » demanda-t-il.
« Un peu partout, Bachar. Nous ne sommes pas en mesure de garantir votre sécurité pour l'instant, mais nous nous organisons. Je communiquerai l'adresse où je vous conduis à qui de droit. »
« Ont-elles dit pourquoi elles me recherchent ?»
« Elles ne disent jamais rien, Bachar. »«
Depuis combien de temps sont-elles implantées ici ?»«
Bien trop longtemps. Elles étaient déjà sur Gameux quand j'étais enfant, et plus tard, lorsque j'ai combattu à Renditaï en tant que balterne. »«
Un siècle au moins, » se dit Teg.
« Largement le temps de regrouper un grand nombre de forces entre leurs mains, s'il faut ajouter foi aux craintes de Taratsa. » Et Teg n'hésitait pas à y ajouter foi.
« Ne faites surtout jamais confiance à quelqu'un que ces catins ont pu avoir sous leur influence, »
lui avait dit un jour Taratsa. Teg en tout cas ne sentait toujours aucune menace dans sa situation actuelle. Il ne pouvait que constater l'atmosphère de secret qui l'entourait visiblement. Il ne chercha pas à obtenir de plus amples détails. Il se trouvait maintenant au cœur de la cité. Teg entrevit la masse noire de l'ancienne citadelle arconenne de Baronie à la faveur d'occasionnelles trouées entre les murs qui entouraient les résidences privées. La voiture tourna dans une rue bordée de petites boutiques hétéroclites, pour la plupart rafistolées avec des matériaux de récupération dont la diversité et les couleurs disparates affichaient l'origine. Des enseignes criardes proclamaient que les marchandises à l'intérieur étaient de meilleure qualité qu'ailleurs et que le service après-vente était incomparable. Ce n'était pas tant qu'Isaï s'était dégradé ou même perverti, se disait Teg. La croissance de la cité avait été orientée vers quelque chose de pire que la laideur. Quelqu'un avait cherché délibérément à la rendre sordide. C'était la clé de presque tout ce qu'il voyait ici. Le temps ne s'était pas seulement arrêté à Isaï, il était revenu en arrière. Le spectacle que Teg avait sous les yeux n'était pas celui d'une cité moderne sillonnée par des rames de transport rapides et efficaces, parsemées d'immeubles usiformes aux structures parfaitement isolées. Il n'y avait là que des assemblages désordonnés, des bâtisses anciennes reliées à des constructions bricolées au goût de chaque individu, presque toujours dans un but qui n'apparaissait pas clairement ou dont l'utilité avait dû se perdre dans la nuit des temps. Tout à Isaï était jeté pêle-mêle dans une contiguïté qui n'échappait que par miracle au chaos. Ce qui sauvait encore la cité, se disait-il, c'était la présence des anciennes artères le long desquelles s'agglutinaient les bicoques lépreuses. Le chaos avait peu de prise sur les tracés rectilignes, bien que les nouvelles rues aient été percées sans le moindre plan d'urbanisme, se recoupant dans tous les sens, sauf à angle droit. Vu des airs, la cité ressemblait à un patchwork insensé où seul le rectangle géant de l'ancienne baronnie donnait une impression d'ordre géométrique. Le reste était un défi à toute architecture.